Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve demain à 20h55. Bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Ce soir, Corinne Rondeau et Jean-Max Collard se font face. À notre affiche, Charles Glaire, le romantique repenti, au musée d'Orsay. La boîte de Pandore, une autre photographie par Yann Dibetz au musée d'art moderne de la ville de Paris. Nous évoquerons aussi plus rapidement Brick by Brick de Pat McCarthy au Frac Paquin à Marseille et puis l'Observatoire de la Lumière de Daniel Buren à la Fondation Louis Vuitton. Vers 21h20, Émilie Chaudet nous livrera la revue presse culturelle quotidienne de la dispute. Et bien sûr, encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des invitations pour la représentation de « Je suis Fassbinder » de Falk Richter ce samedi 21 mai à 20h30 au Théâtre National de la Colline à Paris. Enfin, nous avons rendez-vous avec le musicien et compositeur Machar Bar-Khalifeh qui est toute cette semaine l'invité de la dispute. Et nous ouvrons cette dispute avec un romantique repenti, donc si l'on en croit le sous-titre de l'exposition consacrée à Charles Glaire au musée d'Orsay. C'est jusqu'au 11 septembre. Les commissaires en sont Guy Cocheval, le président des musées d'Orsay et de l'Orangerie, Côme Fabre, conservateur au musée du Louvre, et Paul Perrin, conservateur au musée d'Orsay. France, nous signale le musée d'Orsay, n'avait jusqu'à présent jamais consacré d'exposition monographique à Charles Glaire, alors que le peintre suisse a occupé une place importante dans la peinture académique à Paris au milieu du 19e siècle. On va en parler, de son atelier sortir notamment Jérôme, Sisley, Renoir, Basile et même Monet. Et la relecture psychanalytique de l'œuvre de Glaire par Michel Tévoz, publiée en 1980, ont mis au jour ce que Tévoz présente comme des contradictions de l'artiste et de son œuvre. Alors fut-il un des derniers tenants du néoclassicisme, un romantique repenti ou un précurseur du symbolisme? Charles Glaire mérite-t-il le détour? Élément de réponse avec, pour commencer, Jean-Max Collard.
Alors
ben, franchement, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire d'abord que c'est d'abord une histoire tragique, cette peinture, parce que c'est un jeune homme qui est orphelin, qui grandit à Lyon, qui a quand même quelques soucis, qui part mal dans la vie, et puis qui aspire à la grande peinture alors qu'il était voué comme ça à un dessin plus technique. Et d'ailleurs, c'est un bon dessin. Un bon dessinateur technique, quand on le verra sur les frises des ruines de pyramides, ou un petit tableau de Pompéi aussi, qui est assez joliment fait, mais qui est technique. Et ce jeune homme aspire à la grande peinture romantique, et ce sera quand même, grosso modo, difficile pour lui, difficile. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire un très très long voyage en Orient, à accompagné d'un, enfin, à la suite d'un mécène un peu fou qui va aller jusque dans des lieux profonds où finalement il va se rendre compte qu'il est en train de ruiner sa vie. Et d'ailleurs, le mécène qu'il avait pris sous son aile pour lui demander de faire des dessins va mourir 6 mois après à Bombay. Donc, il remettra 3 ans pour revenir sur Paris.
Mais c'est un vrai voyage en Orient,
c'est
lui.
Très très long voyage en Orient, assez rare.
Les autres
par
ne sont pas allés. Hein,
tout à fait,
à
tout à fait.
Hein.
Et
est-ce
qu'il en retire vraiment une vision absolument éblouissante de l'Orient? Non, parce qu'on a beaucoup d'images assez convenues, en quelque sorte. On est vraiment dans l'académisme. Moi, je m'interroge quand même sur la nécessité qu'il y a à montrer un artiste comme celui-là, à le montrer à cette échelle, je veux dire. Alors certes, il y a le tableau du soir, hein, qui avait été un des grands succès, donc, qui date de...
Son premier vrai succès est 1843.
Tardif, c'est-à-dire qui était au fond un tableau.
Pourquoi il n'est pas allé en Égypte pour rien.
Un tableau d'un échec qui était une vision comme ça nocturne d'une barque dans laquelle étaient des personnages, donc une vision crépusculaire, une vision mélancolique. C'était comme une sorte de. En fait, ce tableau, c'est une fin de carrière. Et puis, en fin de compte, ça va être un succès. Et donc, du coup, retournement de situation. Faut pas non plus l'exagérer. Léger, quoi. Surtout au vu de la postérité. Et donc, Glaire va comme ça continuer à fournir des tableaux avec une iconographie quand même très particulière, par moment, parce qu'en même temps très convenu aussi. Alors on pourrait prendre l'exemple, c'est le fameux premier tableau de Glaire qui est dans l'exposition et qui est un peu une entrée dont Michel Tévoz parle beaucoup, on y reviendra sans doute, et qui est une scène de viol par des brigands romains d'un couple de touristes qui faisait le tour d'Italie, hein. Ça me rappelle cette vieille chanson de Charlie Couture sur les Anglais qui meurent en vacances.
D'accord, et vous allez nous la chanter aussi?
Non, je vais pas vous la chanter, mais je m'en suis souvenu soudainement. Et tout ça pour dire que cette entrée comme ça, cette scène de viol par des brigands romains quand même prend à rebours évidemment toute l'imagerie sur le tour d'Italie, etc. Donc il y a de la bizarrerie et en même temps il y a beaucoup de conventions. Je trouve pas ça, moi personnellement, très passionnant. Peut-être qu'on aurait pu faire l'exposition juste autour du soir, par exemple, ou de quelques tableaux réunis, parce que le fait qu'il ait été le professeur aussi de nombre de peintres importants, suffit-il vraiment à justifier cela? D'autant qu'on pense que Manet y est resté juste quelques semaines, alors d'autres y ont passé évidemment beaucoup plus de temps. Bon, moi voilà, je trouve pas ça très décisif.
Bon, Corinne Rondeau, parmi les bizarreries aussi, on en évoquera peut-être tout à l'heure, les paysages préhistoriques, quand même, enfin les scènes de vie préhistoriques ne sont pas tout à fait piquées d'un ton non plus. Corinne Rondeau.
Oui, eh bien, Jean-Max avait du mal à se dépêtrer du destin de ce Suisse, cet Helvète, hein, puisqu'en fait, c'est aussi un des très grands peintres Helvètes aujourd'hui. Les Suisses lui vouent une adoration très grande, et c'est aussi bien de se rappeler qu'il a été le maître en peinture de beaucoup de nos grands peintres, en tout cas Basile, et vous l'avez rappelé, Renoir, et très brièvement Monet,
votre
par exemple.
Renoir.
Notre ami Renoir, bien sûr, dont vous savez que je déteste particulièrement sa peinture. Alors moi, ce que ça peut interroger cette œuvre au musée d'Orsay, puisqu'en fait le soir, c'est aussi une peinture qui vient du Louvre. Il est à cheval entre le Louvre et Orsay. Je trouve que ça revient dans la stratégie d'exposition de retrouver Orsay dans son jus. Mm-hmm. Et ça, je remercie quand même Cocheval qui a fait une introduction du catalogue absolument somptueuse, sublime. On a envie d'aller courir voir cette exposition tellement il est enthousiaste. Parce qu'il faut savoir que dans les années 80, quand sort le livre de Tévoz, l'académisme et ses fantasmes, ce livre le marque, et jusqu'à aujourd'hui où il a mis à l'étrier comme Fabre, qui est désormais conservateur au Louvre, mais qui était à Orsay, remplacé cette fois-ci par Paul Perrin, deux garçons absolument adorables, brillants, élégants et intelligents. Et donc, d'un coup, c'est aussi un témoin qui se fait là. Et finalement, il a été aussi le témoin d'une époque. Et je dois dire que je n'aime pas trop m'intéresser à la vie des artistes pour parler de leur œuvre. Or, il se trouve que tout de même, il y a quelque chose de très intéressant dans l'accrochage, qui est un accrochage chronologique. Et lorsque vous rentrez sur le côté gauche, vous avez effectivement les brigands romains avec un homme attaché et dans l'arrière-fond du tableau, l'arrière-plan du tableau. Il est très éclairé et c'est vers cette lumière que vous allez. Et moi, je n'ai pas vu au premier plan le viol, puisque c'est un viol. Et ce tableau a été traité par le plus grand admirateur de Gler, qui est Charles Clément, le grand souteneur, je dirais, intellectuel, qui a écrit et qui a pris en charge même la postérité. Merci Jean-Max. Et ce tableau, en fait, dit-il, c'est un péché de jeunesse. Il ne l'a jamais montré. Et il faut savoir qu'on a découvert que les traits du personnage attaché étaient ceux d'Horace Vernet, dont la fille était promise à Charles Gler.
Enfin, il aurait bien aimé.
Et finalement, ça ne s'est pas passé comme ça.
Elle en a épousé un autre.
Tout le romantique est conduit.
Oui, le romantique, oui, plutôt que repenti.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce tableau annonce le réalisme. Avec une évidence assez sidérante. Il a une brutalité, il a, même si c'est par le biais qu'on voit la scène dans son entièreté, il y a quelque chose d'une frontalité aussi qui se joue. Je veux dire, peindre un viol, il faut y aller, quoi, quand même. Et puis, quand on passe dans les salles de ce voyage, puisque formation à Lyon, Paris, il part donc à Rome, et il repart donc sous la protection de son mécène John Lowell Jr. Et puis ils partent, il fait des aquarelles d'une limpidité, il a un œil photographique, il a un œil cristallin, il a un regard cristallin sur les choses, c'est d'une très très grande beauté, moi j'ai trouvé, dans la mesure où presque il y avait de la photographie dans la saisie de ces aquarelles. On sent que c'est quelqu'un qui a la main levée, comme dans le dessin. Il est beaucoup plus laborieux sur la peinture à l'huile notamment. Et puis là on voit qu'effectivement, ce voyage quand même, il revient quasiment mort. On l'enroule, les marins qui le retrouvent disent il est quasiment mort, ils ont failli le jeter par-dessus bord. Il rentre à Paris, il a failli perdre un œil. Enfin, ce type a un destin fou. Il faut savoir qu'en 1874, il meurt devant un tableau de Ingres, d'une rupture d'anévrisme de l'aorte. Donc vraiment, ce type a quelque chose d'une vie absolument incroyable. Et ce qui est intéressant dans son œuvre, c'est à quel point, comme si le réel avait bloqué quelque chose de son regard. Parce que jusqu'à son retour à Paris, là où il se retrouve finalement dans le métier d'art, à l'école des Beaux-Arts, il va être un grand maître, on lui reconnaît la modestie, la générosité. Et finalement, c'est le soir, là où finalement il y a un abandon dans la peinture, qu'il trouve à la fois sa réussite et son échec. Puisque d'ailleurs Charles Clément est tout à fait conscient de ça, en disant il faut pas reconnaître ça comme une réussite. On voit qu'il a quelque chose, la réussite menace finalement l'avenir de Charles Gler. Et puis après coup, on voit bien qu'il ne sait pas, contrairement à Ingres par exemple, faire un art d'assemblage. Il n'arrive pas à monter, il ajuste, et avec des étrangetés, des anachronismes absolument sidérants. Mais ce qui est plus intéressant, d'ailleurs, Ingres, il meurt devant un tableau de Ingres, mais il faut savoir que pour une décoration de château dans Pierre, Ingres fait effacer quasiment tout le travail de Charles Gler. Je dois dire que le port, 2 ans avant qu'on le reconnaisse avec Les Illusions perdues ou Le Soir. Je veux dire, ce garçon a effectivement, comme l'a dit Jean-Max, un destin un petit peu dur. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on voit les œuvres qui sont exposées notamment, c'est les bacchantes ou les bacchanales qu'il montre, ou notamment un tableau absolument anachronique, assez mystérieux et étonnant, c'est une Minerve et les Trois Grâces. On n'a jamais vu une Minerve avec les Trois Grâces. Elle est en train de jouer de la flûte, qui est un instrument pas du tout des mythes grecs, mais du Moyen-Âge. Les yeux de cette Minerve, vous avez envie de partir en courant. C'est-à-dire qu'elle a un visage de gorgone, et moi j'ai vraiment eu la sensation que c'était presque une sorte d'interprétation filtrée du mythe d'Actéon, de Diane et Actéon. Il a vu quelque chose de la féminité sur laquelle il n'arrête pas de revenir. Donc je vais laisser parler mon camarade, mais moi je suis hypnotisée par cette peinture qui est à la fois sauvage et glacée. On ne sait pas par où ça tient, mais on a la sensation qu'il y a quelque chose de cette sexualité et de cette nudité féminine qui l'effraie, et en même temps qu'il essaie de récupérer, de lisser jusqu'à sa dernière œuvre qui est inachevée à cause de ce tableau au salon de l'industrie en 1914 qui est le Paradis terrestre.
Jean-Max Collard.
Non, je trouve très très bien, très beau tout ce que dit Corinne. J'avoue que moi, ça me laisse plus de marbre que de sauvagerie dans l'œil. Mais il y a aussi des choses un peu bizarres et notamment un tableau qui est quand même assez qui est presque humoristique, on va dire, et qui est le tableau de Hercule et Omphale, où vous avez une figure de Hercule qui était comme ça destinée, enfin. Placé comme en esclavage auprès de Omphale et donc il y a un petit angelot qui lui a pris son énorme massue et Hercule est là comme une sorte de dans une figure dans une posture très très homo érotique en train de s'occuper d'une sorte de mini collier avec une sorte de plume à la main. C'est quelque chose de, comme ça de très très ample parce qu'il a son énorme ossature musculaire et en même temps il est dans un geste comme ça très efféminé comme on lui a pris aussi son membre viril qu'est la massue. Évidemment ça fait bizarre, c'est très bizarre. De là ah, comme on l'entend, comme on le voit sur les murs de l'exposition, nous dire que c'est l'invention de l'art au féminin et qu'on voit bien le côté un peu transgenre et tout ça, etc.
Faut peut-être pas non plus pousser.
L'invention
de l'art au féminin, c'est écrit sur le mur. À propos justement des Minerves, à propos des Bacchantes, parce qu'il n'y a pas Bacchus et il n'y a que des femmes Bacchantes.
Mais vous tirez le trait là, Jean-Max. Non,
c'est vrai. C'est sur les murs du musée.
Oui, d'accord. Après, mais on ne peut pas réduire, si vous voulez, l'exposition à une phrase qui est sur un mur, parce qu'il y a quand même une vingtaine de citations sur le mur.
C'est exagéré et qu'au fond, c'est en faire beaucoup avec quelque chose qui n'est pas grand-chose. Voilà, c'est tout. Et par exemple, l'exposition dit bon, voilà, on place ça se place sous le signe du spleen et de l'idéal. Bon. Alors, je voudrais dire référence à Baudelaire. Et donc, j'ai amené ma citation de Baudelaire, parce que j'ai cherché dans les curiosités esthétiques, j'ai cherché la présence de Charles Gler. Et j'ai compris pourquoi moi, je ne connaissais pas du tout Charles Gler. C'est parce qu'au fond, il était vraiment assez peu connu. Et Baudelaire lui accorde en tout et pour tout 4 à 5 lignes, c'est tout. Hein. Et donc, le mot, c'est « Il avait volé le cœur du public sentimental avec le tableau du soir ». Autant qu'il ne s'agissait que de peindre des femmes solfiant de la musique romantique dans un bateau, ça allait. Mais cette année, Monsieur Gler voulant peindre des apôtres, Monsieur Gler n'a pas pu triompher de sa propre peinture. Et c'est tout. Voilà. Donc placer quand même Charles Gler sous le signe du spleen et de l'idéal, c'est une référence évidente à Baudelaire. Quand de l'autre côté, Baudelaire est loin d'avoir rendu hommage. Quand de l'autre côté,
c'est moi, de la communication, ça, Jean-Max.
Non, mais je me fie aussi au Goncourt qui avait trouvé le personnage triste et ennuyeux, n'avait pas beaucoup
pas toujours suivi au Goncourt, hein, vous le savez.
Pas toujours, mais enfin, entre Baudelaire et Goncourt, ça fait quand même pas mal.
On va reparler de Baudelaire et de la photographie tout à l'heure, on verra que c'est pas toujours aussi simple.
Non, et puis, au fond, moi, je comprends très bien le fait que ça s'inscrive dans un programme sur l'académisme, et ça, on peut évidemment le reconnaître, mais on se souvient de l'exposition sur Jérôme, qui était énorme, qui tendait vers le péplum, etc. Là, pour moi, ça reste quand même très anecdotique.
Oui, non, mais alors d'abord, c'est pas les mêmes mètres carrés d'exposition, hein, entre Jérôme et Charles Gler. L'idée, alors que vous tirez le trait sur des choses qui sont pas nécessaires, dans la mesure où, d'abord, le spleen et l'idéal, c'est la lecture qui a été faite parce qu'on a reconnu à l'époque du vivant de Charles Gler qu'il était maniaco-dépressif. Donc, on va jusque-là en tirant le spleen, puisque bon, c'est aussi la maladie de l'époque, on va dire. Aller chercher Baudelaire comme la référence essentielle de la critique de l'art au 19e, on peut aussi se dire que peut-être on peut avoir un regard au 21e siècle autrement et de chercher justement ce qui a été effacé par exemple par la toute-puissance d'un Ingres. Faut pas non plus le négliger. Faut voir aussi comment Ingres, Jérôme, a récupéré des choses de Charles Gler de manière évidente. Comment il le peint quasiment mort dans une barque. D'ailleurs, c'est dans l'exposition. Donc tous ces rapports qui sont entre les peintres sont aussi à l'intérieur de ça. Finalement, ce qui reste, c'est quand même, je veux dire, Renoir, par exemple, aura quasiment signé toute sa vie, Auguste Renoir, élève de Charles Gler. Bon, alors, je veux dire, si vous avez besoin de vous armer de Baudelaire pour dire c'est juste pas grand chose, j'estime que, à un moment donné, les musées ont aussi à déterrer des morts, qui ont participé à des petits éclats, à aussi une collectivité picturale. Et moi, ce qui m'intéresse à la limite, c'est de voir à quel point on peut réinterroger quelque chose d'un destin d'un peintre à l'intérieur d'un destin pictural. Qu'a fait Charles Gler de quelque chose qui l'a empêché d'être le peintre qu'il a été. Je crois que c'est ça. Et d'une certaine manière, les peintres, font les artistes, font quelque chose de leur vie. C'est raté, c'est réussi. Je pense que c'est aussi la mission d'un musée que d'avoir à montrer des œuvres qui sont par ailleurs reconnues par nos amis helvètes, même si vous n'êtes pas obligé de le partager.
Charles Glaire, le romantique repenti, c'est au musée d'Orsay à Paris jusqu'au 11 septembre. Puis un ouvrage collectif qui reprend le même titre, qui est publié évidemment par le musée d'Orsay et les éditions Azan.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure de Yann Dibetz au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, mais avant cela, nous retrouverons l'invité de La Dispute, le musicien et compositeur Machar Bar-Khalifé. Nous évoquerons aussi Brick by Brick, c'est Pat McCarthy au Frac Paca à Marseille, et puis l'Observatoire de la Lumière de Daniel Buren à la Fondation Louis Vuitton. Mais pour l'instant, l'Observatoire de la Vie Culturelle avec Émilie Chaudet pour la revue de presse culturelle quotidienne de La Dispute. Bonsoir chère Émilie.
Bonsoir Arnaud et bonsoir à tous. En fouillant dans la pochette d'archives de notre cher collègue Antoine Guillot, je me suis arrêtée sur un édito du magazine Connaissance des Arts daté du 29 avril dernier et qui questionne la neutralité du musée. Le rédacteur en chef du bimensuel, Jean-Christophe Castelin, s'interroge sur les moyens qui sont mis en œuvre pour s'assurer de l'objectivité d'un tel lieu. Je le cite, « Lorsque le Quai Branly retrace l'invention du sauvage que le Mucem à Marseille raconte la conquête de l'Algérie, que le musée de l'homme étudie l'impact des humains sur leur environnement ou que la cité des sciences s'apprête à expliquer les maladies mentales, comment s'assurer que leur discours soit au plus près de la vérité des sciences humaines ? L'éditorialiste ajoute que les musées sont des institutions de savoir qui ont la confiance du public, il faut donc savoir préserver ce capital. Une question de confiance donc dans l'institution musée, c'est une question que pose entre autres Guillaume Kienz, ce conservateur au musée du Louvre qui s'est impliqué en son nom propre et non, on le précise au nom de l'institution, dans le mouvement de la nuit debout et plus particulièrement dans un musée debout. L'objectif affiché de cette initiative, selon les mots de Guillaume Kienz, rapportés dans Le Monde par la journaliste Emmanuelle Lequeux, c'est de, je cite, « remettre le musée au cœur du débat public et le débat public au cœur du musée ». Dans un autre article qui lui est consacré, article d'Elisabeth Franck-Dumas de Libération, il déplore que le musée et l'histoire de l'art soient oubliés des enjeux politiques et des enjeux de société. Nous voulons réaffirmer la place du musée comme un lieu de fabrique du citoyen. Et outre ce discours d'ouverture, de redéfinition de l'espace musée, le jeune conservateur et les personnes qui l'accompagnent au sein du mouvement Nuit Debout font état de propositions en ce sens. Par exemple, pour citer celles que rapporte la journaliste, l'enseignement de l'histoire de l'art à l'école, l'accès gratuit au musée et la formation artistique des personnels de surveillance. Pas très loin de cela, le journal suisse Le Temps nous apprend qu'à Berlin, des réfugiés syriens ou érythréens, pour la plupart, sont formés pour devenir guides en langue arabe au musée de l'histoire allemande. Des visites guidées faites par des réfugiés pour des réfugiés. Le journaliste Simon Petit nous raconte l'histoire d'Isber Sabrine, un Syrien de 30 ans qui a quitté son pays 6 ans auparavant et qui a pu terminer ses études d'archéologie qu'il avait commencé en Syrie. C'est lui qui assure l'une de ses visites en mettant l'accent, dit-il, sur la reconstruction et la démocratie. Pour les réfugiés, ça a un aspect très, très émotionnel. Ils se disent « Nous aussi, nous pourrons faire ça chez nous un jour. » Ils reprennent espoir. Un cas comme celui-ci pose donc la question de l'utilité d'un musée objectif. Est-ce que l'intérêt d'un lieu pareil ne serait pas de pouvoir raconter sa propre histoire. Le Dakart fait écho à cette interrogation. C'est Philippe Dagen qui titre dans Le Monde un Dakart sous le signe de la colère. Et le début de cet article en dit déjà beaucoup sur la simple question du lieu. Le journaliste écrit en effet « Une biennale, c'est une architecture. Arsenal à Venise, bâtiment d'Oscar Niemeyer à Sao Paulo. Simon Djami, le directeur artistique de la 12e biennale de l'art africain contemporain, celle de Dakar, est un habitué de l'exercice et c'est donc l'importance du lieu. » C'est ainsi que Simon Njami a choisi un musée pour le moins surprenant pour une exposition nommée pourtant Réenchantement. Il s'agit de l'ancien palais de justice de Dakar, inauguré en 1956, précise Le Monde, peu avant l'indépendance. Et la couleur de l'exposition s'en ressent, les œuvres sont regroupées sous le signe de la colère, comme l'explique Philippe Dagen, colère, je cite, contre les tyrannies politiques, religieuses et financières. Des œuvres qui relèvent de la satire, comme celle de la Marocaine Fatima Mazmouz, ou de la dénonciation, comme celle du
soudanais à la Caire. En somme, une vision particulière de l'histoire d'un continent vu à travers ses batailles et ses cicatrices. Pas de neutralité donc, et même parfois du conflit, comme on peut le voir dans les territoires palestiniens. C'est un article du New York Times qui raconte l'histoire du tout nouveau musée palestinien inauguré aujourd'hui. James Glantz et Rémi Nazal rapportent que ce musée n'a rien à envier aux autres qui existent dans le monde, avec ses grands espaces, un amphithéâtre, une grande terrasse et un jardin. Rien à envier, si ce n'est le principal, c'est-à-dire des œuvres à exposer. C'est un musée vide que le président Mahmoud Abbas a inauguré aujourd'hui, et ce à la suite d'un désaccord entre les curateurs d'une exposition sur des œuvres de réfugiés palestiniens et le directeur du musée. Désaccord qui a finalement abouti à l'éviction du dit directeur. Dans cet article, Omar Al-Khatan, l'organisateur de cette inauguration, confie que les Palestiniens sont à ce point à la recherche d'une énergie positive que cela valait le coup d'inaugurer ce bâtiment aujourd'hui même vide. Il faut donc croire que, même vide, un musée ne peut pas, ne doit pas se contenter de rester neutre.
Merci Émilie Chaunet pour cette revue de presse encore une fois bien riche. Il y a des sujets qui vous ont interpellé, Jean-Max Collard, dans ce énoncé par Émilie.
Non, enfin oui, en même temps, voilà, on a parcouru beaucoup de choses.
Ouais.
En...
De musée debout jusqu'au musée palestinien, en passant par la Biennale de Dakar et encore quelques autres. Oui, musée debout, il ne manquait plus que ça. Mais
je me souviens de l'inauguration du musée de l'art contemporain à Sarajevo, quelques temps après le. Et ça avait été un musée qui avait été constitué notamment de dons d'œuvres faites par les artistes. Et je me souviens de l'énergie incroyable qui accompagnait l'apparition de ce musée dans des conditions évidemment difficiles. L'exposition, les œuvres étaient encore à peine accrochées. Enfin, c'était quand même assez invraisemblable. Et ce qui était émouvant, ça avait été, toujours été, on l'avait vu pendant, enfin on avait pu le voir à distance évidemment pendant le siège de Sarajevo, c'était voilà l'engouement qu'il y avait autour des quelques artistes qui avaient comme Boltanski, comme d'autres qui étaient venus pendant le siège pour faire des expositions. Et donc là évidemment dans ces moments là dans des situations là comme on l'évoquait pour la Palestine, un musée vide, un musée à moitié plein, à moitié évidemment ça a son rôle dans l'espace social.
Corinne, oui, l'enseignement de l'histoire des arts à l'école, la gratuité des musées pour les plus jeunes, sont des choses voilà, dont on parle régulièrement ici, qui sont des choses assez évidentes qu'il faut rappeler.
Oui, mais bon, s'il n'y a pas un projet éducatif sur les arts plastiques, parce que c'est le vrai problème, en fait. Il ne s'agit pas d'avoir des vœux pieux en disant il nous faut de l'art, il nous faut de l'art. Enfin, non, je ne crois pas. Je crois qu'il est essentiel qu'il y ait une familiarité. Comme d'autres et beaucoup d'autres choses, comme les langues étrangères et aussi la culture, voilà, toutes confondues. Je crois qu'il faut que les enfants aient cette familiarité, mais cette familiarité dans le cadre éducatif, ça suppose d'avoir un vrai programme de mise en œuvre. Et je crois qu'elle est très mal faite, puisqu'on le sait aujourd'hui depuis des années quand même dans les écoles d'art, notamment la question de l'histoire de l'art. L'intitulé même histoire de l'art ne signifie plus grand-chose, ou même affecte déjà l'ennui des étudiants. Donc ça veut dire comment, effectivement, la question d'une histoire peut être remise en question et réactivée à travers la production contemporaine, par exemple. Je crois que voilà. Alors, les écoles d'art, ils travaillent sans doute avec beaucoup plus d'âpreté et d'intelligence et de nécessité aujourd'hui. Mais dans le cadre de l'école, du collège et du lycée, là, je crois qu'il y a un vrai souci. Un vrai souci qui n'a pas été... parce que depuis très longtemps, on entend à la fois la disparition des arts plastiques, en même temps la nécessité de créer un vrai programme, comment se ferait-il. Donc là, je crois que les gens n'ont pas la copie sur la table.
Non,
mais
on
par contre,
toujours.
Tout le monde en parle. Ah, tout le monde en parle.
Ça, c'est sûr.
Ça, qu'est-ce qu'on parle
Ouais, il faudrait faire dans ce domaine.
Ouais, pour faire, il faut se taire.
Bon, parlons-nous, puisque nous sommes là pour ça. D'autres expositions, d'autres œuvres à voir. Alors, une œuvre sur une œuvre, l'Observatoire de la Lumière, Daniel Buren, c'est à la Fondation Louis Vuitton à Paris, Jean-Max Collard.
Oui, ben moi j'ai été impressionné par l'intervention de Daniel Buren sur le bâtiment de Guéry de la Fondation Vuitton, parce que je pense tout simplement que Buren là est très fort. Il est au sommet peut-être du bâtiment, mais il est vraiment dans ce qui dans vraiment dans du très grand Buren. Alors pour comprendre ça, il faut un peu déjouer évidemment la communication de la Fondation Vuitton qui parle d'un formidable dialogue entre les artistes, entre l'architecte et l'artiste. Et évidemment, c'est pas du tout ça. C'est même plutôt un combat, c'est même plutôt un défi. Et tous les enjeux, c'est quoi? C'est d'abord d'inviter Buren et que Buren fasse une lecture du lieu. Et la lecture du lieu, la première chose évidemment, c'est qu'il ne va pas occuper les espaces intérieurs. Il ne va pas occuper les espaces intérieurs. Et c'est déjà en soi une critique à l'égard du bâtiment de Frank Gehry qui rend la vie difficile aux artistes. Donc, contrairement à Olafur Eliasson, qui lui s'est placé à l'intérieur, et au passage d'ailleurs, on peut dire que Buren lui met une claque. Bon. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est qu'il prend du coup le bâtiment de Gehry par l'extérieur, par là où Gehry est le plus fort, est le plus visible, et le plus lyrique aussi. Et il le fait de manière très simple, puisque même si ça demande toute une ingénierie, mais c'est simplement d'appliquer des touches de couleur sur les grandes voiles et la toiture du bâtiment. C'est un geste quelque part qui est à la fois minime, c'est-à-dire c'est vraiment un geste d'artiste. Vraiment, on met une palette de couleurs, des couleurs diverses sur un bâtiment. Et puis et du coup, déjà quand on voit la fondation de l'extérieur maintenant, ou quand on s'y promène à l'intérieur, mais qu'on voit les voiles comme ça colorisées par Buren, eh bien il y a deux effets. D'abord, il y a un effet d'appropriation, ou plutôt de co-signature, c'est-à-dire que quand même le bâtiment très signé de Gehry, qui est très Gehry, et devient complètement un objet co-signé aussi par Buren. C'est pleinement un Buren. Moi, je trouve que c'est quand même assez fort. Et puis, par ailleurs, ce qui est évidemment intéressant, c'est que quand la lumière se reflète quand le soleil et la lumière se reflètent dans le bâtiment, du coup, évidemment, Buren gagne tous les espaces intérieurs. Donc il y a ce jeu de challenge. Il faut savoir que ce challenge entre ces combats en quelque sorte entre l'architecture et l'artiste, Buren c'est un de ses sports de combat favoris. Hein, on se souvient qu'au Guggenheim en 71, il avait dressé un grand pan de tissu avec ses bandes alternées et que les artistes américains, Dan Flavin en tête, l'avaient fait exclure du Guggenheim. Donc il y était revenu pour une exposition perso 20 ans plus tard. Donc c'est un des grands challenges, on va dire, de Buren. Et là où Buren avait eu le projet pour le Grand Palais, de prendre le Grand Palais par la verrière, par la toiture, par l'extérieur, c'est quelque chose qu'il n'a pas pu faire. Et donc du coup, il s'est replié, je dirais, un peu à l'intérieur. Là, la saisie par l'extérieur du bâtiment Gehry est évidemment beaucoup plus forte. Et puis il y a un dernier point, au fond, qui est quand même assez intéressant, c'est que, voilà, moi j'évoque ces questions de critique, mais c'est très beau, et c'est aussi très beau parce que ça donne de la lisibilité. Ça donne encore plus de lisibilité au bâtiment. C'est-à-dire que quand on regarde, quand on se promène dans la fondation et qu'on voit justement les voiles, on les distingue mieux les unes des autres, on voit plus encore les lignes du bâtiment. C'est-à-dire que, et ça c'est tout l'art, je crois, de Buren que certains aujourd'hui veulent réduire à un art décoratif, etc. Non, c'est vraiment l'art in situ qui est à la fois une lecture du lieu, une lecture qui peut avoir des implications critiques, mais qui peut aussi avoir des implications d'éclairage, quoi. Et donc, de magnifier aussi cet objet. Et la question se pose de savoir que peut-être le bâtiment de Gehry nous semblera peut-être un peu plus monotone et un peu plus compact quand il perdra toutes ses couleurs.
Bon, il y en a pour un petit moment avant.
Oui, il y en a un bout de temps, on en a jusqu'au moins l'automne prochain.
Oui, peut-être plus que ça. Ça va durer une petite année. Enfin bon, on verra bien. En tout cas, c'est visible pendant un certain temps, assez long, à la Fondation Louis Vuitton, l'Observatoire de la Lumière. C'est le titre de cette intervention de Daniel Buren.
Il faut profiter plutôt pendant l'été et tout ça. Il ne faut pas attendre
novembre. Il vaut mieux. Mais quoique, ça donnera aussi autre chose à ce moment-là. On verra bien. Du soleil, il y en a plus souvent à Marseille. Au Frac Paca, vous avez été voir une exposition de Pat McCarthy, Brick by Brick, Corinne Rondeau.
Oui, après les deux monstres que vient d'évoquer Jean-Max, Pat McCarthy, né en 87 aux États-Unis, il a la beauté d'une rockstar et la vie d'un beatnik. Il commence en 2009 à faire des fanzines qu'il appelle Born to Kill. Et en fait, pérégrination au milieu des États-Unis, il revient à raconter donc ses rencontres. Il invente une chose absolument sidérante qui est la, une motocyclette, qui est une cheese bike. C'est-à-dire qu'il va mettre un barbecue à gaz sur une motocyclette pendant 3 ans. Il va vendre des hamburgers au fromage. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces fanzines qui sont exposées au frac dans 30 mètres carrés, il en a 80, mais là, ils sont multipliés, sont accrochés, sont cloutés dans 30 mètres carrés. Vous voyez, on passe de gigantisme et effectivement d'un mauvais guéri à l'expression même de la vie d'un artiste qui a besoin de rien. Parce qu'il a une esthétique punk, une radicalité qui vient des années 70, de ce bricolage. Et finalement, moi, ce qui m'a séduit, parce que j'avais entendu parler qu'il était en train d'animer un atelier dans un quartier sensible de Marseille, précisément à la Busserine. Et il est installé dans cette petite espace du frac, un caddie qu'il a récupéré parce qu'il a été saisi de voir ces caddies au milieu de la cité. Les gens font leurs courses et puis jettent les caddies, dans lequel il a mis un groupe électro et une photocopieuse, puisqu'en fait, il a demandé aux jeunes de la cité, pérégrination au milieu des États-Unis, mais aussi dans une cité à Marseille, de fabriquer les fanzines avec lui. Et donc, il y a ça aussi dans l'exposition, c'est rien. Alors évidemment, ce que j'appelle la photocopieuse de l'imaginaire, elle est là, elle est avec un parasol, c'est une chose assez étrange. Puis vous avez tous ces murs qui sont recouverts de fanzines, et vous avez aussi, il ne fait pas que ça, il fait de la performance, évidemment. C'est une performance que de faire ce type de pérégrination. Cette question de la photocopieuse est aussi là. Il habite dans le quartier de Brooklyn, qui est le Brunswick, qui est la mecque du pigeon. Il élève des pigeons. Il fait des films très courts sur l'envol des pigeons. Et c'est projeté sur un drap avec un bordereau peint comme ça, une espèce de un écran là encore dans la pauvreté même. On peut faire aussi des écrans comme ça. Et ces envols sur une surface qui est quasiment suréclairée, surexposée, vous avez l'impression que c'est de la feuille qui passe, une ombre. Et alors ce que j'aime beaucoup dans ce travail, c'est à la fois la pauvreté, l'idée d'être réduit à sa propre activité et à sa propre vie et d'en produire des choses. Il va même prendre le fanzine et en fait en passer, je dirais, l'image sur de la céramique, donc on a de la sculpture aussi, mais c'est pas une sculpture pour faire de la sculpture. Donc ce qui est intéressant, c'est effectivement de la micro-édition. Il y avait un festival quelques jours avant que j'y aille qui était Rebelle, c'est un festival de fanzines. J'ai découvert qu'à Poitiers, il y avait une fanzinothèque absolument formidable. Et que là, je pense qu'à un moment donné, la question du fanzine est aussi un biais par lequel l'art peut exister entre comment pérenniser quelque chose de l'éphémère et en même temps, c'est rien, c'est cheap. Et il y a une vitalité, une énergie dont on se dit effectivement que comment chercher à éditer, comment chercher à faire vivre autre chose. Je me dis que la voie du fanzine est une des, Jean-Max doit le savoir, et il le sait d'ailleurs, est une des voies qu'il faut pas négliger. C'est des articles qui sont aussi petits que Charles Glaire peut l'être pour d'autres.
Charles Glaire, c'est mieux qu'une exposition.
Alors, Fondation Louis Vuitton et fanzine, comme ça, c'est pour vos coups de cœur. Brick Back Brick de Pat McCarthy, c'est au Frac Paca à Marseille jusqu'au 5 juin. Dans quelques minutes, nous parlerons de la boîte de Pandore, une autre photographie par Yann Dibetz au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Avant cela, on retrouve l'invité de la dispute, le musicien et compositeur Machar Barkhalife, dont vous pouvez retrouver toute l'actualité sur le site franceculture.fr à la page de l'invité de la dispute.
Enchanté, comment allez-vous? Très bien, merci.
Bachar Barkhalife, parlons d'art plastique ensemble. Alors là, dans son acception, là aussi la plus large, parce que de la vidéo à la peinture classique, de l'installation à la performance. Alors, dans votre emploi du temps, il y a aussi des collaborations. On pourrait parler du photographe Lee Jeffries, par exemple. Mais c'est quoi votre fréquentation Est-ce que vous allez dans les musées? Est-ce que vous allez dans les galeries? Est-ce que ce sont les amis dont vous allez voir le travail? Quel rapport vous avez à ce continent sur les arts plastiques?
Un rapport assez solitaire et une démarche un peu hasardeuse, c'est-à-dire que encore une fois, j'aime aller. Je crois que je vais exclusivement dans les musées d'art moderne. C'est quelque chose qui me parle, qui me touche, qui peut me bouleverser. C'est comme ça que j'ai découvert, encore une fois, une dizaine d'années, quinzaine d'années, des expos de Giacometti, de Hopper, c'était à Washington, de Klimt aussi. Je crois que j'aime en fait laisser une grande part au hasard pour découvrir les choses, je crois, sans forcément avoir le background qu'on estime parfois trop souvent nécessaire à comprendre une œuvre. Au contraire, pour moi, je crois que sans avoir tout ça, je crois qu'on comprend peut-être mieux l'œuvre et ça nous... Être vierge de tout ça, je pense que ça apporte beaucoup de force aussi à l'impact que ça peut avoir dans notre vie de voir des œuvres comme ça.
Mais parce que ce qui compte, c'est l'émotion première. Parce que si on, enfin, je le répète suffisamment sur cette antenne, mais si on n'est pas ému d'une façon ou d'une autre par une œuvre, c'est bon. C'est sans doute qu'elle a rien à nous dire, ou nous, on ne comprend pas ce qu'elle aurait à nous dire. Mais par contre, après, est-ce que vous avez envie, quand vous, voilà, découvrez, et que vous êtes ému par les œuvres d'un plasticien, d'un artiste, vous avez envie d'en savoir plus, d'en voir plus? Comment est-ce que vous fonctionnez?
Je me défends aussi d'en savoir plus. Et j'aime oublier, en fait. J'aime oublier pour redonner aussi une chance, soit à d'autres découvertes, soit à redécouvrir aussi cet artiste quelques années plus tard. J'ai une relation assez peut-être qu'on peut la qualifier peut-être plus animale qu'intellectuelle.
Instinctive
exactement. Par rapport à ces œuvres-là, je n'aime pas non plus lire les explications en dessous des tableaux ou des sculptures. Je suis très très réticent à l'intellectualisation de l'art, en fait. Je crois que c'est quelque chose qui nous empêche de vivre certaines émotions, et peut-être que d'autres ça les aide, mais moi je crois que c'est une erreur, et parfois même ça peut être même dangereux.
Ça peut gâcher.
Ça peut gâcher.
Ça peut dégoûter. Enfin, il y a beaucoup de dangers. Mais alors, je sais pas, un des chocs ou découvertes ou plaisirs ou émotions récentes que vous avez eues, c'était devant
des tableaux de Rothko. C'était lors de ce même voyage à Washington. Je connaissais pas Rothko. J'ai découvert Rothko. J'ai ensuite effectivement fait quelques recherches
pour moi-même
et vu un documentaire sur Rothko. Mmh. Et je pense que ces tableaux portent une lumière. D'ailleurs, il attachait beaucoup d'importance à la lumière. Comment ces tableaux étaient exposés à la lumière. C'est aussi une forme d'échapper à certaines conventions des musées, etc. Oui, ça m'a bouleversé, oui, les tableaux.
C'est une expérience. Est-ce qu'il y a des mots pour décrire les sensations physiques?
Il y a toujours des mots. On a beaucoup de mots qu'on peut utiliser. Les mots aussi, je m'en méfie beaucoup. Ils portent toute une panoplie de significations. Ils portent une histoire. Les mots, ils portent. Ils n'ont pas la même valeur ou la même signification venant de telle ou telle personne, de telle ou telle époque, de tel ou tel moment de la journée. Et ça fait aussi partie de ma démarche de refuser l'intellectualisation de l'art. Je crois que c'est beaucoup plus, encore une fois, organique que ça. Et un tableau... tout simple, avec deux couleurs, bleu et jaune. Ça me ramène à peut-être mon enfance, peut-être des questions, sûrement des questions existentielles. Quel courage d'accrocher ce tableau-là dans un musée, avec deux couleurs, ou parfois une seule couleur. Et évidemment, quand il y a une seule couleur, on en voit une infinité. Et c'est fabuleux.
Nous poursuivons cette dispute consacrée le mercredi soir aux arts plastiques en nous rendant au Musée d'art moderne de la ville de Paris qui a invité l'artiste Yann Dibetz à une relecture de l'histoire de la photographie depuis son invention jusqu'à nos jours. plusieurs fois exposé au Musée d'Art Moderne. Alors en 80, en 94, en 2010, l'artiste néerlandais Jan Dibets a commencé par la peinture, avant de regarder à travers le viseur d'un appareil photo, raconte-t-il pour la première fois à 26 ans, moment fondateur de son parcours à venir. Dingre, nous y revoilà. Que Jan Dibets se considère comme le grand-père de la photo couleur, à la photographie comme art, en passant par les photographies scientifiques et les merveilleux Gustave Le Gray. On va suivre le parcours de cette exposition avec, pour commencer, Corinne Rondeau.
Alors, écoutez, cette exposition, la beauté sèche de cet artiste conceptuel, il a aussi, je dirais, l'avantage de se placer à l'endroit de sa subjectivité, qu'il réclame d'ailleurs dans l'entretien qu'on trouve dans le catalogue, même s'il y a certaines phrases d'une brutalité sidérante et en même temps peut-être salutaire, je ne sais pas. En tout cas, j'ai pas de jugement à apporter là-dessus. Il est évident que l'entrée avec une reproduction d'un Ingres, le portrait de la vicomtesse d'Haussonville, avec une photographie dont s'est servi Ingres, et par ailleurs une phrase de Brotars avec des images de Brotars, dont la citation de Brotars est « chaque image réussie montre de la faiblesse de la théorie », on est clair qu'on ne va pas assister à une exposition théorique ni historique de la photographie, et que par ailleurs, l'idée immédiate de la reproduction du tableau de Ingres nous donne un petit peu la tonalité de l'exposition, c'est-à-dire qu'on va travailler effectivement sur des œuvres et des formes qui sont mises à l'intérieur de ce parcours et non pas, à reconnaître la validité ou la grandeur d'un vintage. Non. Ça, c'est intéressant, même s'il critique, l'utilisation peut-être de la photographie chez Ingres. Moi, je n'est pas du tout la lecture que Jan Dibets a d'Ingres. Mais enfin, bon, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que les premières photographies, quand même, c'est Niepce, physicien et chimiste. C'est Daguerre, peintre décorateur et de théâtre. Puis, quand même, assez très vite, on va aller vers des photographies. On pense à Atkins, par exemple, celle qui a travaillé, justement, sur l'inscription de la lumière en faisant ces bleus, là, et ces plantes absolument merveilleuses. C'est le travail aussi de Talbot, c'est-à-dire les phénomènes de la nature, mais c'est aussi interroger finalement la dimension expérimentale et technique. Et ça me paraît intéressant parce qu'on continue, même si on a une grande photographie de Thomas Ruff d'un cosmos, on est dans des rapports aussi micro-photographiques entre une levure de bière, un globule de levure de bière de Léon Foucault, et en même temps une auréole solaire du même photographe. Donc on a l'infiniment grand et l'infiniment petit, la dimension expérimentale, technique et scientifique qui marque évidemment le début d'une photographie. Et c'est-à-dire se pose la question effectivement où se trouve la dimension artistique de la photo, en a-t-elle une ou pas ? Et moi ce que j'ai bien aimé finalement, parce que l'exposition a une dimension très, très plasticienne, l'exposition, le parcours est très plasticien, justement il vous donne à voir ensuite après les degrés dont vous parliez effectivement la question du montage. C'est pas la capture de la réalité, on n'est pas dans le réel, donc ça ne l'intéresse pas. On est aussi dans la sérialité, enfin la répétition chez Marie et Muybridge. Et puis on est dans le rapport du gros plan sur toutes les choses mécaniques et le photodynamisme de Bara Glalia, par exemple, du futuriste. Donc on voit bien qu'il est dans des mouvements, il interroge la diversité, la complexité de la photographie. Et tout ça passe quand même avec beaucoup de beauté. Il y a un choix de photographie qui est intéressant. Mais au fur et à mesure, vous posez vraiment la question de c'est quoi la photographie ? Et effectivement, il y a une chose qui moi m'a intéressée dans le discours qu'il a. Alors, il est un peu soutenu par un auteur dont j'ai quelques réserves, Wilhelm Flusser, mais qui est quand même finalement la photographie, ça doit être plutôt comment plutôt que quoi. Et ça m'intéresse parce que le quoi c'est quoi ? C'est le descriptif et le narratif, c'est-à-dire le contenu. Et dit-il, finalement, on s'intéresse tellement à cette question du quoi qu'on ne se pose pas la question du comment. Et là, d'un coup, je me dis, il y a peut-être aussi une forme de faire un pas de côté, et peut-être ça nous ferait moins photographier n'importe quoi, puisqu'on fait quoi à force de faire des photographies qui sont que du quoi, à quoi ça sert finalement. Alors que le quoi qui est à la fois la réinterrogation de la technique, mais aussi finalement quelle est la nature vraiment artistique possible de la photographie, compte tenu qu'il faut interroger avec Yann Dibetz, par le biais de la lecture de Wilhelm Flusser, l'aliénation du regard à l'écart de l'image technique. Et ça, c'est des choses qui se relèvent, puisqu'en fait, la dernière partie de l'exposition, qui sont les objets photographiques, c'est comment une image devient elle-même, c'est une image faite par une image qui peut elle-même devenir une matière. Et donc, on peut arriver à avoir des objets. Et là, on va avoir accroché des combinaisons, des formes sculpturales plutôt. Donc, il y a ce mouvement-là qui nous fait penser qu'effectivement, l'image est en train de produire une matérialité même et un espace dans lequel nous regardons les choses.
Jean-Marc Scollard, sur cette exposition qui s'appelle « La boîte de Pandore ».
Bah, d'abord dire que moi, ce que je trouve intéressant, au fond, c'est justement une exposition qui interroge, qui effectivement a parfois des sorties qu'on peut évidemment largement discuter, mais voilà, qui s'intéresse.
On peut discuter, justement.
Ouais, on peut discuter, voilà. C'est pas une énième monographie de gens qui font des images et qui font justement des sujets, etc. On avait montré, on avait eu, nous, des réserves, par exemple, vis-à-vis d'Araki. Et au fond, je me disais, c'est pas tant la question d'Araki, c'est justement le fait que Dibetz le dit, c'est pas le sujet de la photographie qui lui l'importe, c'est effectivement les techniques, c'est le programme de l'appareil photo, pour reprendre les propos de ce théoricien Wilhelm Flusser dont il s'inspire beaucoup. Et ce qui est intéressant dans l'expo de Dibetz, par exemple, c'est évidemment tout ce qu'il n'y met pas, par exemple, tout ce qu'il n'y a pas dans l'exposition, et parce qu'il le refuse. Alors, par exemple, c'est au nom du fait que le sujet n'est pas important. Donc, par exemple, c'est la photographie documentaire, le reportage, le portrait, parce que le portrait, ça rejoue la peinture, c'est déjà fait. Et logique avec lui-même, Dibetz écarte, par exemple, la photographie abstraite des années 30, genre Rodchenko, puisque l'abstraction a déjà eu lieu, donc il n'y a pas besoin de la photographie abstraite. Donc, oui, mais pas la photographie abstraite. Donc, il élimine des pans entiers de la photographie, de la pratique photographique, et ça, déjà, je dirais, c'est un peu décapant. Et en même temps, il y a le portrait, mais c'est après pour des raisons un tout petit peu différentes. Mais donc, c'est l'idée de que la photographie n'est pas là pour rejouer, en tout cas, le système des beaux-arts, et donc ça, c'est évidemment intéressant, et donc ça réfléchit sur l'autonomie du médium. Moi, je ne trouve pas l'exposition formidable dans sa forme. Je trouve qu'il y a une salle qui est quand même tout à fait remarquable. C'est la salle consacrée à Muybridge, où effectivement Yann Dibetz, le photo conceptuel qu'est Yann Dibetz, expose Muybridge de manière complètement sérielle, en alignant comme ça toutes les chronophotographies de Muybridge, à la façon vraiment d'un artiste des années 60-70. C'est quand même une salle hyper belle, quoi. Franchement, c'est une très très belle manière d'exposer Muybridge. Et puis, ce qui est quand même intéressant, où ce qu'on a dit, le refus des vintage, tout ce culte autour des images authentiques, etc., au profit là de la copie et de la reproduction, c'est bien normal quand on parle de photos. Ce qui est effectivement très intéressant, au fond, c'est quand même toute la fin de l'exposition, effectivement. C'est pas tant, d'ailleurs, la partie des contemporains de Yann Dibetz que la partie vraiment ultra contemporaine, où là on trouve des artistes comme Wade Guyton, comme Seth Price, des objets, etc. Et c'est quoi la réflexion de Yann Dibetz par rapport à ça? C'est qu'au fond, la photographie absorbe tous les autres arts et progressivement va absorber tous les autres arts. C'est-à-dire que il voit que finalement le cinéma n'est jamais que le développement de la photographie, mais maintenant la sculpture, comme on le voit ici avec Seth Price ou avec l'impression 3D, la photographie numérique évidemment, mais même l'informatique, et même d'ailleurs dans les entretiens audio que donne Yann Dibetz, même les emails sont à ses yeux des émanations de la photographie. Alors l'exposition se termine donc avec des objets parce que ce sont des artistes qui travaillent souvent comme Wade Guyton à partir de fichiers informatiques, et donc là aussi il y retrouve en quelque sorte la présence de la photographie. Et ça, je trouve que tout ça fait quand même un paysage très à rebours de ce qu'on peut recevoir. Et puis, il prend la photographie dans un très long temps, qui est la question, même si parfois il y a un peu des portes enfoncées sur la question de la reconnaissance artistique de la photographie. Mais je veux dire, bon, voilà, ça fait du bien d'avoir une exposition qui rebat un peu les cartes, qui rediscute du médium, qui prend des partis pris, qui mélange effectivement les images scientifiques du 19e siècle et des images de Thomas Roof, qui rebrasse un peu les choses, qui nous offre aussi une relecture de l'ultra contemporain. Moi, j'avoue que je regarde Seth Price depuis cette exposition d'une toute autre manière qu'avant, parce que je ne comprenais pas très bien où ça allait, et là j'avoue que ça m'éclaire. Eh bien, je trouve que c'est très intéressant pour ça.
Corinne, rapidement.
Oui, bah écoutez, moi je dirais que je suis un peu... Sur l'exposition, on peut prendre beaucoup de plaisir à cette exposition, c'est absolument indéniable, justement pour sa dernière partie. Et puis cette dernière partie, quand même, moi, me pose des problèmes sur la question de la réinterprétation la manière de réinterroger la notion de réalité par rapport à la photographie. Même si j'entends bien que ce n'est pas une capture de la réalité et que c'est un lieu commun là aussi. Mais c'est aussi une exposition qui travaille beaucoup sur l'analogie. Il est dans une connaissance du monde de l'art à travers des formes analogiques. Et à un moment donné, c'est quand même assez épuisant, je dirais, parce que il y a quelques jeunes. Non, mais moi, ça m'a. C'est ça qu'il faut aussi interroger. Enfin,
je peux être épuisé par les carambolages analogiques.
Il y a des choses qu'il faut éviter, vous savez.
Non, mais on peut parler analogie. Moi, je dis, voilà, si j'étais plus épuisé par les carambolages de Jean-Hubert Martin dans l'exposition Carambolage, qui procède vraiment par analogie formelle, que ici, je trouve que c'est un paysage quand même assez dégagé. C'est pas très épuisant. Non, formellement, il n'y a pas un jeu non plus d'analogie. C'est pas aussi facile que ça.
La question de l'analogie, elle est de mon point de vue, elle est conceptuelle. Elle n'a rien à voir avec je viens de dire qu'on peut prendre beaucoup de plaisir vers cette exposition. Juste pour rectifier le propos de mon camarade.
Bon, ce sera sur une rectification qu'on conclura cette dispute sur la boîte de Pandore. Une autre photographie par Yann Dibet. C'est jusqu'au 17 juillet qu'on peut voir cette exposition au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Le catalogue est édité par Paris Musée.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et nous concluons cette émission avec le jeu de la dispute. Et ce soir, c'est Hugo Boursier qui est avec moi pour cette séquence. Et d'abord, un retour sur le jeu d'hier soir, Hugo.
Vous avez gagné le DVD du film Toto et ses sœurs d'Alexander Nanao, distribué par JHR Film. On vous demandait depuis Cannes vers quelle discipline artistique le jeune Totonel, alias Toto, s'est-il tourné. Et la réponse était le hip-hop.
En effet, avec grand succès, comme on le voit dans ce film. Ce soir, on fait gagner des places pour un spectacle dont on a parlé lundi de la semaine dernière, ou ce lundi? Non, la semaine dernière. Je suis Fassbinder de Falk Richter, mise en scène par Stanislas Nordet et Falk Richter. Des places à gagner pour samedi soir, 21 mai, à 20h30 au Théâtre National de la Colline à Paris. Quelle est la question, Hugo?
Comment s'appelle l'architecte qui a bâti la Schaubühne de Berlin où Falk Richter est l'artiste associé?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Corinne Rondeau, Jean-Max Collard, Émilie Chaudet et Hugo Boursier d'y avoir pris part avec moi. La dispute est possible grâce à Hugo Boursier, à Émilie Chaudet, à Daniel Finot, à Antoine Guillot, à Flora Isidore et à Virginie Leduo. La prise de son était assurée ce soir par Pierre Faucillon, la réalisation signée Daniel Finot. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée à la musique en compagnie de Christophe Comte et Olivier Lam. À notre affiche Moon-Shaped Pool de Radiohead, Views de Drake et The Party d'Andy Schauf. Nous retrouverons Émilie Chaudet pour la revue de presse culturelle de la dispute, les choix du musicien et compositeur Bachar Mahalife, invité de la dispute, et puis il y aura un nouveau cadeau à gagner avec le jeu de la dispute. Tout cela, c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture à 22h15. Hors champ par Laure Adler et dans quelques instants, le journal de la rédaction.